Jean-Louis Dessalles, il y a une autre voie aussi de réflexion qui vous conduit, là encore, à être dans une situation, une position critique. Cette fois, vous êtes vraiment, disons, dans le cadre de la théorie de l'évolution. Alors, là encore, dans le cadre de la théorie de l'évolution, si on prend Darwin, vous rappelez qu'évidemment, il avait une vision continuiste, parce que sa conception de l'évolution était gradualiste, donc très lentement, petit à petit, les éléments qui, un beau jour, apporteront notre capacité langagière à sa survenue, se ramassaient, se rassemblaient. Et là, vous n'êtes évidemment pas d'accord, et vous mobilisez un autre théoricien de l'évolution, plutôt deux, mais enfin bon, il y en a un qui est très célèbre, qui est Stephen Gould, qui s'est illustré par sa conception anti-gradualiste, mais au contraire saltationniste, montrant l'évolution faisant d'un seul coup de brusques écarts, et que c'est dans un de ces brusques écarts qu'il faudrait plutôt voir, comme un pli très profond, l'émergence de la capacité de langage.
Oui, un aspect effectivement de la théorie de Darwin, parce que je pense que Stephen Gould est tout à fait darwinien, mais c'est un aspect, il s'oppose à Darwin, et dans cette opposition, effectivement, je choisis Gould. Alors, pourquoi je choisis Gould, à quel titre? C'est parce que l'évolution est devenue une science expérimentale. Avec les ordinateurs, on peut simuler les phénomènes d'évolution. Donc, quand je vois évoluer mes petites bestioles simulées dans l'ordinateur, je ne peux pas m'empêcher d'être gouldien sur cet aspect, et donc non gradualiste. Ça ne veut pas dire que je suis saltationniste. Alors, il faut expliquer tout ça. C'est l'idée de Darwin, c'est que l'évolution est un phénomène lent et graduel, qui prend le moindre changement, prend des millions d'années. Et de fait, c'est vraiment l'histoire qu'on nous raconte. On voit, quand on regarde l'enregistrement fossile, on dit, vous voyez, il y a une gradation, un changement, des changements, une accumulation de petits changements graduels. Et l'évolution fait ce qu'elle peut, mais comme elle est lente... Bon. Alors, la vision qu'on a de l'évolution est tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire que, bizarrement, l'évolution est un phénomène rapide. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'utilise, que les ingénieurs l'utilisent. Il y a une technique qui s'appelle les algorithmes génétiques qui utilise les phénomènes d'évolution, qui copie les phénomènes d'évolution pour les reproduire dans l'ordinateur, parce que ce sont des phénomènes rapides, l'évolution par sélection naturelle. Alors comment expliquer que finalement on ait l'impression que l'évolution soit lente alors qu'en fait elle est rapide? C'est ce que Gould nous explique, c'est qu'en fait la plupart du temps les espèces sont en équilibre. Elles sont adaptées à leur niche écologique, elles sont isolées dans leur niche écologique, et par moments, c'est ce qu'il appelle les sauts, d'où l'idée de saltationnisme, par moment il y a un changement brusque.
Un changement environnemental par exemple.
Ça peut être dû à un changement environnemental, et Gould insiste sur le fait qu'il n'y a pas de direction. Il n'est pas possible de prévoir la direction du changement. Donc les espèces s'adaptent par saut. Alors évidemment j'ai dit que j'étais pas vraiment saltationniste, c'est-à-dire que si on met la loupe sur ces sauts, on voit que toutes les formes intermédiaires existent. Mais comme l'évolution est un phénomène rapide, ça n'a pas le temps de s'enregistrer par exemple dans les couches géologiques. Donc pour celui qui regarde les fossiles, il n'y a pas de saut. Donc Gould, c'est quelqu'un comme ça, qui regarde les fossiles dans les muséums d'histoire naturelle, et il voit des sauts brusques. Donc en fait, la leçon qu'on doit tirer de cela, c'est que toutes les espèces sont isolées dans leur niche écologique, et l'homme ne fait pas exception. Donc c'est pour ça qu'on en vient à cette idée de non-continuité du point de vue du langage entre la communication animale et la communication humaine, c'est que nous, en tant qu'espèce, nous sommes dans une niche, et que cette niche est caractérisée, entre autres, par l'usage intensif d'une forme de communication très particulière qui est le langage.
Oui. Si on devait regarder alors les candidats possibles, encore dans votre ouvrage, vous analysez avec minutie, bien sûr, cette question. Pour certains, on peut imaginer que parmi nos ancêtres, il y aurait, mettons, Homo erectus, celui qui s'érige, celui qui se lève, et qui peut-être serait le candidat à ce qu'on peut appeler un proto-langage. Donc on aurait un proto-humain, ou un des premiers qui donneront dans leur descendance sapiens, Homo sapiens sapiens, et puis déjà équipé d'une forme très rudimentaire et élémentaire de langage. Cette vision vous agrée ou pas, Jean-Louis Dessalles?
Alors, oui et non, c'est l'adjectif rudimentaire qui me gêne. C'est-à-dire que ça a l'air d'être contradictoire avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que si nous sommes homo sapiens, ce ne sont pas la première espèce d'homo. Donc il y en a eu d'autres avant, donc qu'on regroupe sous l'appellation Homo erectus ou Homo ergaster. Donc cette autre espèce devait avoir une niche écologique avec un comportement. Et elle était adaptée à sa niche écologique. Donc il est convenu maintenant d'appeler proto-langage la forme de communication supposée, parce que le langage ne laisse pas de fossiles, mais la forme de communication supposée d'Homo erectus. Donc on peut faire l'hypothèse, on a des raisons de penser qu'il y avait au moins une forme intermédiaire de communication, mais ce n'était certainement pas un brouillon. Hein, si on applique les idées de Gould, le proto-langage n'était pas une étape intermédiaire et obligatoire du non-langage, c'est-à-dire de la forme de communication des animaux, vers notre langage. Il n'y a pas d'idée de progrès ni de direction. Il se trouve que, de manière fortuite, Homo erectus avait une forme de communication, sans doute, c'est l'hypothèse, qui était le proto-langage et il était très heureux avec, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça répondait parfaitement à ses besoins biologiques. Et si nous avons fait une innovation, on aurait pu en faire une autre. Et d'ailleurs, on peut faire de la paléontologie fiction et supposer que, par exemple, l'homme de Néandertal avait fait un autre type de changement par rapport à Homo erectus. Je ne sais pas si on le saura un jour, si on aura les moyens de faire un scénario comme celui-là, mais on ne peut pas l'exclure. On sait que l'homme de Néandertal avait un cerveau au moins aussi gros que le nôtre. Il était sans doute aussi intelligent que nous. Il avait peut-être une forme de communication qui était qualitativement différente, de même que nous avons une forme de communication qualitativement différente de celle du chimpanzé.
Vous utilisez aussi un des concepts qui a été mis en vogue d'une certaine manière par Stephen Gould et qui s'oppose au concept d'adaptation, qui est le concept d'exaptation. Alors, il est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que, en général, on l'illustre par le fait que les premiers vertébrés terrestres n'ont pas attendu d'avoir des pattes pour... les pattes ne se sont pas développées à partir du moment où ils étaient sur Terre, mais que de façon gratuite, fortuite, ils étaient déjà équipés de pattes dans le milieu aquatique. Et que c'est en les utilisant cet appendice-là, qui n'avait pas de fonction propre, qu'ils ont été capables de marcher sur la Terre. Donc là, on a un phénomène dit d'exaptation. Et on pourrait peut-être considérer qu'à un moment, sans aucune finalité, évidemment, comme vous l'avez dit, et sans aucune adaptation, sans strict du terme, l'homme ou cette espèce-là a utilisé quelque chose qui était peut-être adjacent et l'a amplifié de manière opportuniste.
Oui, alors l'utilisation notamment de l'appareil phonatoire, l'appareil respiratoire pour faire de la phonation, c'est un très bel exemple d'exaptation. C'est quand même un appareil qui est fait déjà pour deux fonctions, qui est celle de respirer et celle d'avaler. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs, avec tous les problèmes que ça pose de carrefour et de difficultés. Et là-dessus, il y a encore la nature fait du neuf avec du vieux, comme disait François Jacob. Elle n'a rien trouvé de mieux que de rajouter une troisième fonction qui est celle de produire des sons, on passe à peu près 20% de notre temps éveillé à parler, vous imaginez, le temps, enfin, ça devient l'utilisation principale de cet appareil-là, avec la respiration, mais beaucoup plus que l'alimentation. Donc là, on a un exemple d'exaptation. Et ça montre bien que c'est un cas où l'organe suit la fonction, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu, pour une raison fortuite ou qu'il faut expliquer, une pression de sélection pour avoir ce type de communication, l'appareil respiratoire a été recruté. Si ce n'avait pas été possible, l'évolution s'est brouillée autrement. D'ailleurs, les personnes qui sont malentendantes, qui sont muettes pour toutes autres différentes raisons, se mettent à s'exprimer avec leurs mains et ça fonctionne plutôt bien. Donc en fait, pour différentes raisons, l'appareil respiratoire était plus disponible, puisqu'on l'utilisait pour produire déjà des sons, les animaux le font, ça a été recruté, donc un bel exemple d'exaptation.
Vous dites, mais ça c'est une toute petite parenthèse, que en tout cas cet appareil il est quand même relativement performant, puisqu'on peut produire beaucoup de phonèmes en un temps très très bref, et puis aussi qu'il a cette capacité unique, semble-t-il, à pouvoir produire la voyelle I. Je dis bien I. Mm-hmm.
Alors, oui, on a quand même maintenant un appareil fantastique qui nous permet de transmettre, 10-15 phonèmes à chaque seconde, qui nous permet...
Ça me semble énorme, en plus.
Oui, ce qu'on appelle phonème, dans le moindre mot, il y en a déjà, effectivement, de l'ordre de la dizaine. Hein, c'est tous les sons élémentaires Donc un peu, le son peu dans pas, il y a déjà deux phonèmes, il y a le peu et le a. Donc en première approximation, ça va correspondre aux lettres de l'alphabet. Et c'est cette capacité-là, le chimpanzé ne l'a certainement pas. Donc en fait, là, il y a eu une évolution, mais c'est une évolution de type rapide. Ça, l'évolution, les mécanismes d'évolution par sélection naturelle vont très très vite pour nous doter de ça. Et notamment, le chimpanzé n'a pas de contrôle cortical, c'est-à-dire que sur son appareil phonatoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de représentation fine au niveau de ce qui est l'aspect le plus fin calculateur de notre cerveau, qui est le cortex. Hein. Donc nous l'avons, c'est-à-dire qu'au niveau des... Si, en neurologie, on voit que... il y a des projections sur le cortex du cerveau, des muscles donc, qui peuvent être commandés par notre intelligence, peut commander directement les muscles du pharynx. Ça, le chimpanzé ne peut pas le faire. Mais l'évolution a bricolé quelque chose en quelques... Alors, quand je dis que c'est rapide, hein, évidemment, c'est sans doute pas mal de milliers ou de dizaines de milliers d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est très rapide.
Alors, il y a, Jean-Louis Dessalles, aussi un aspect étonnant dans votre analyse et votre analyse critique, c'est la position de Chomsky, parce que s'il y en a une qui, en première apparence, pourrait sembler, elle, comme non continuiste, c'est bien celle-ci, avec l'idée de grammaire universelle. Noam Chomsky dit, c'est le propre de l'homme, c'est qu'il a un équipement absolument intégral, qui lui permet la capacité langagière et qu'il ne la partage, cette grammaire-là, avec personne d'autre, parmi les autres êtres vivants sur cette planète.
Alors Noam Chomsky a ouvert une porte superbe et l'a refermée tout de suite. C'est ça qui est très étonnant pour ce qui est de la question de l'évolution du langage. Effectivement, il a naturalisé le langage. À l'époque des années 50-60, on considérait que le langage était une convention culturelle. Hein. Il a fallu, donc, c'est toutes ces considérations sur notre physiologie du pharynx, le fait que nous avons des aires corticales spécialisées pour le langage, et l'argument de Chomsky sur le fait que, finalement, si on regarde l'ensemble des langues du monde, elles ont l'air d'être faites sur le même modèle, ce qui n'enlève rien à la beauté, à la richesse de toutes les langues qu'il faut absolument étudier, mais si on les regarde assez loin, si on les simplifie suffisamment, elles ont l'air d'être faites sur le même modèle. D'où l'idée de Chomsky que nous avons une faculté de langage.
Qui repose sur cette grammaire universelle.
Voilà, sa fameuse grammaire universelle, il dit toutes les grammaires de toutes les langues, aussi belles soient-elles, dérivent d'un même schéma commun qui est cette fameuse grammaire universelle. Et donc, d'emblée, donc, il nous dit, finalement, il a même employé que le mot organe. Il nous a dit, c'est un organe, le langage est un organe, au même titre que nous avons le cœur ou le foie. Et alors, là, il a ouvert une porte merveilleuse, il a naturalisé le langage, il a ramené le langage dans les questions d'histoire naturelle. Et il a tout de suite fermé la porte en disant, parce qu'il était ami avec Gould, il a surtout été très impressionné par les idées de Gould, et il les a prises dans le sens saltationniste. Il a dit, mais c'est tout, il n'y a rien à expliquer. Il y a eu une apparition soudaine du langage, voilà. Et la messe est dite, il n'y a plus rien à dire. Alors qu'en fait, comme le cœur, toutes ces caractéristiques ont une fonction, les caractéristiques un petit peu complexes, et c'est certainement le cas de la grammaire universelle ou de nos appareils phonatoires, ils ont une structure complexe et la seule source qu'on connaisse dans la nature, c'est l'évolution par sélection naturelle. Donc il faut une fonction derrière. Le langage n'existerait pas s'il n'avait pas de fonction. C'est là qu'on arrive à une grande question, quelle est la fonction du langage ? Et là, on a un paradoxe, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que cette fonction était évidente, mais elle ne l'est pas. Pendant longtemps, on a considéré que de manière évidente, le langage était fait pour communiquer, que c'était bon pour l'espèce, pour le groupe. Et ça correspond à une idée, moi j'appelle ça la version romantique, l'idée romantique de l'évolution par sélection naturelle. C'est celle qu'on apprend, qui était en vogue dans les années 30-60 du siècle dernier, mais qui est encore dans les manuels scolaires, hein, ce qui est que ou dans la vie des animaux, on entend que ce qui est sélectionné, ce qui est bon pour l'espèce. Or ça c'est faux, on sait qu'il n'y a aucune raison, l'espèce n'a pas de volonté, il n'y a rien de tel. Ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce sont les caractéristiques qui permettent qui profitent à leur porteur. Donc les individus qui montrent des caractéristiques différentes de leurs congénères, et que, si ça leur permet de mieux vivre, de mieux se reproduire, c'est exactement ce que Darwin a dit, là, il n'a rien dit d'autre. Et c'est ces caractéristiques-là qui leur permettent qui sont sélectionnées. Donc, dans le cas du langage, il ne faut pas poser la question de savoir en quoi c'est bon pour l'espèce. C'est pas du tout la question. Il faut savoir en quoi c'est bon pour ceux qui communiquent, c'est-à-dire pour les individus. Donc, en quoi le fait de communiquer est profitable aux individus. Et là, on s'aperçoit que la réponse n'est pas simple du tout.